Bonjour à tous, bonjour à toutes. Paradeux, réalisé avec la collaboration de la SRT Jura et la complicité de plus en plus active des commissaires Jocelyne Farine et Michel Champion. Nous sommes toujours en direct de Mervelier, Mervelier sur la place de la Truite, au bord de la Scheldt, sous la pluie, mais nous attendons le soleil pour poursuivre cet après-midi nos émissions. En régie, François Schuller, Françoise Rossier, Louisa Pernet et Denise Fischer. Et ce matin, entre 10h et 11h, nous vous proposons des rencontres assez particulières. Nous ferons connaissance avec la Société des sciences naturelles de Porrentruy. Nous découvrirons le jardin botanique du lycée cantonal de Porrentruy. Et nous accueillerons le chef de l'Office des eaux et de la protection de la nature, le professeur Jean-Claude Bouvier. Voilà de quoi vous réjouir et nous allons tout de suite nous attarder un peu en compagnie de Joseph Chalvera, qui est président de la Société des sciences naturelles du pays de Porrentruy, qui est biologiste et qui va nous dire ce qu'est cette Société des sciences naturelles.
Cette Société des sciences naturelles, c'est en fait le regroupement des personnes qui s'intéressent à la nature dans le pays de Porrentruy. C'est pourquoi elle est constituée de plusieurs sections en fonction des préoccupations des gens, principalement d'une section mycologique qui travaille en relation avec la région de Montbéliard et bien sûr les mycologues de Suisse, et d'une section ornithologique qui est très active, qui s'occupe principalement durant ces dernières années de rapaces, mais qui va certainement reprendre un peu les passereaux, passereaux qui sont la nostalgie de beaucoup de naturalistes et surtout d'observateurs dans le terrain. D'autre part, la société a compté une société de jeunes, une section jeunesse, qui devrait redémarrer, j'espère prochainement, et est ouverte bien sûr à la formation de toute autre section, en fonction des préoccupations des gens, sections qui peuvent marcher temporairement, qui ont déjà fonctionné temporairement. C'est principalement une section de botanique, qui nous a permis de connaître un peu mieux la flore de notre coin et bien sûr d'approfondir un petit peu les déterminations.
Et vous êtes vous-même actif à l'Institut pédagogique jurassien qui est dirigé par Michel Girardin et vous préoccupez bien sûr de biologie et surtout de faire en sorte que dans les écoles cet enseignement soit assuré.
Évidemment, comme je suis aussi à l'Institut maître de connaissance de l'environnement, c'est bien clair que, surtout après Circé, donc le plan d'études roman, c'est l'aspect surtout connaissance du milieu naturel qui fera partie de l'enseignement des sciences naturelles. Donc de façon un peu plus globale, de façon un peu plus proche de l'enfant et du milieu immédiat qui entoure la vie de l'enfant. Par conséquent, il est évident qu'une société de sciences naturelles qui s'occupe de ce qui se passe dans le terrain, dans le pays immédiat environnant, peut avoir une incidence importante sur la formation des enseignants.
Mais c'est surtout la nature qui vous préoccupe, Joseph Chalvera, parce que la nature est une richesse que parfois l'homme ignore.
Ben c'est bien clair, et en plus de ça, la joie a la chance d'être encore une relique, disons presque, par rapport à certaines régions de Suisse, d'une nature relativement intacte. Alors évidemment que quand on a un joulot, on est passionné de nature.
Vous êtes aussi passionné de nature que votre voisin, qui est un autre biologiste, et qui n'est autre que le professeur Jean-Claude Bouvier, qui pendant 20 ans a dispensé de l'enseignement. La nature est vraiment quelque chose auquel nous devons tenir par-dessus tout, surtout dans le monde d'aujourd'hui, professeur.
Ah ben c'est évident, madame. Je pense qu'il n'y a pas de démonstration à faire à ce sujet.
Et vous êtes biologiste vous-même?
Je dirais plutôt naturaliste.
Vous aimez la nature?
Ça,
c'est un secret que vous gardez?
Oui,
c'est
évident.
C'est même une passion. Mais nous revenons à cette Société des sciences naturelles. Vous venez de distribuer un bulletin d'information. Je crois qu'il est important car il donne toutes sortes d'informations à part, disons, l'éditorial. Vous me disiez tout à l'heure que c'est surtout les faits divers sur lesquels il faut se pencher car il vous donne toutes sortes d'anecdotes également.
Nous avons pensé dans le comité de la Société de Sciences qu'il était important de créer un lien et de permettre finalement aux membres de devenir actifs. Parce qu'évidemment, dans toute société, il n'y a pas simplement de membres qui se contentent de payer des cotisations et qui n'ont, pour toute information sur la vie de la société, qu'un petit rapport lors d'une assemblée générale, par exemple. Alors, c'est évident que si une porte leur est ouverte par l'intermédiaire d'un petit bulletin, chacun peut s'exprimer, chacun peut faire part aux autres de ce qu'il a vu, vécu ou ce qui l'a intéressé. Et je pense que si ce dialogue réussit à s'instaurer, la société sera plus vivante. Et peut-être que les gens auront plus d'envie de se rencontrer, de se retrouver et de vivre les expériences de naturalistes ensemble.
Vous organisez des sorties où vous allez botaniser ?
Alors évidemment, c'est une des parts actives de la vie de la société. C'est que régulièrement, on met sur pied des excursions de toute nature d'ailleurs. Prochainement, il y aura une excursion géologique qui aura trait surtout au relief jurassien. Elle va se faire probablement en France. On a aussi des sorties botaniques. L'automne, évidemment, des sorties mycologiques, des rencontres mycologiques. À partir du mois de juillet, par exemple, tous les lundis soirs, les portes du local de la société sont ouvertes aux personnes qui ont fait des récoltes, qui ont un peu feuilleté le champignon pendant le week-end, qui peuvent venir pour des déterminations, pour en causer de plus près, etc.
Quels sont les champignons qu'on trouve le plus ? Je dis qu'on trouve le plus, pas les meilleurs.
Ah, évidemment. Ceux qu'on trouve le plus sont aussi parfois les meilleurs, parce que je ne crois pas qu'on les trouve sans les chercher. Alors, je pense qu'en cette saison, on peut se lancer dans les amanites, dont plusieurs sont comestibles.
Surtout l'amanite vineuse,
que oui, je trouve délicieuse. Ou rougissante, oui, bien sûr. Oui.
Et il y a des coins, il y a des places, ces petites caches que personne ne dit.
Oui, certainement. C'est aussi pourquoi, disons, que les gens viennent anonymement le lundi soir, disons, sans révéler l'endroit d'où ils ont apporté les champignons. C'est clair.
On vous apporte encore parfois des champignons très dangereux.
Oui, évidemment. Et en ce sens-là, la société a un rôle à jouer. On a parfois des cueilleurs de champignons qui ramassent tout ce qu'ils trouvent et qui rapportent un beau panier avec de magnifiques amanites phalloïdes par-dessus, par exemple. Alors évidemment, la récolte est fichue à ce moment-là. Ça arrive quelquefois, oui.
Vous ne pensez pas que le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est de botaniser le champignon ?
Botaniser le champignon, c'est excessivement difficile, ne serait-ce que par le nombre d'espèces qu'on rencontre, aussi par la variation morphologique des champignons, qui pour une même espèce peuvent avoir des aspects très différents. Et aussi, du point de vue technique, ça nécessite de la microscopie et autres, mais je crois qu'on peut s'en sortir en connaissant les espèces, disons, dangereuses, en connaissant une vingtaine d'espèces qui peuvent être dangereuses ou douteuses, ou qu'on peut confondre. Je crois qu'on peut éviter des malheurs.
Alors à quoi vous rendez attentifs, vos champignonneurs, vos mycologues ?
Évidemment, on essaie de leur parler des champignons qu'ils ont trouvés, puisqu'ils savent où ils en trieront, et c'est certainement là qu'ils vont retourner. Et d'autre part, on essaie aussi d'avoir un contact avec un public plus élargi en faisant régulièrement des grandes expositions, pas seulement mycologiques, mais aussi de nature, en essayant à chaque exposition de renouveler les thèmes pour attirer des gens. Il y en a une justement prévue cet automne, le 9 et 10 octobre, qui permettront...
Qui se trouvera où ?
À Porrentruy, donc au collège de l'avenue Cunin. Exposition qui permettra aux gens du Jura de mieux connaître leurs vieux fruits. C'est le thème principal, donc les variétés anciennes de fruits du Jura.
Et
surtout les pommes et les poires, puisque ce sont les fruits d'automne. Et en même temps aussi, donc, il y aura une partie mycologique et une partie gastronomique. Puisque c'est très jurassien de fêter à propos de tous les événements qui se passent par ici, on axe aussi une partie de l'activité sur la gastronomie.
Ça, c'est important car la table du Jura est une table excellente, très variée, très diversifiée et qui ne fait pas du mal.
Je crois qu'on
a pu en profiter, Mousse Boulanger. Mais puisque le canton du Jura bénéficie d'une frontière assez vaste avec la France. Je pense que vous avez des contacts assez rapprochés avec la France voisine.
Évidemment, et beaucoup de membres de notre société sont justement français, principalement du pays de Montbéliard, puisque dans cette région-là, il y a une section mycologique, enfin une société mycologique très active, et beaucoup de nos mycologues de pointe collaborent étroitement avec ces gens-là.
Parce que quand vous parlez de Jura dans ce cas-là, vous entendez bien ce Jura qui est une montagne et une chaîne.
Oui, c'est ça. On ne peut pas dire peut-être de Genève à Romansorn, mais presque.
Est-ce qu'on y trouve alors là une grande variété de flore?
C'est évident, ne serait-ce que par une question de relief, puisqu'on part de la plaine vers les 400 mètres d'altitude, plaine déjà qui débouche sur l'Alsace, avec des argiles qui permettent la formation de mares, d'étangs, etc. Et à mesure qu'on monte jusqu'aux franches montagnes, une altitude de 1000 mètres, on a évidemment toute la succession de végétation sur quelques kilomètres de distance.
Y a-t-il des fleurs protégées?
C'est bien clair. Comme partout en Suisse, certaines espèces sont en voie de disparition et on pense immédiatement aux orchidées, qui sont évidemment les joyaux de nos prairies sèches. Et dans la mesure où ces prairies sèches n'ont pas de valeur, de rentabilité, ni agronomique, ni autre, elles sont souvent sacrifiées comme terrain vague ou carrément éliminées, transformées en place d'armes, en béton. Alors évidemment que ces orchidées qui se refugient dans ces endroits-là sont de plus en plus menacées malgré leur protection. Donc on protège la fleur, mais la grande lacune, c'est que le milieu naturel n'est pas, lui, assez protégé.
Heureusement qu'il y a un jardin botanique où on retrouve ces fleurs en voie de disparition. Monsieur François Guenard, on va aborder tout à l'heure ce merveilleux jardin botanique, mais je pense, Vera, que vous avez encore quelque chose à nous dire.
J'ai une question à poser justement à Joseph Chalvera, à savoir que ces sociétés de protection de sciences naturelles sont regroupées en une fédération ici dans le Jura.
Oui, c'est bien clair que il serait logique de travailler chacun dans son petit coin, dans sa petite région.
Il faut bénéficier
d'expériences des autres et aussi faire bénéficier les autres de notre expérience. Dans le Jura, il a été fondé une fédération qui chapeaute toutes les sociétés de sciences naturelles et de protection de la nature.
Qui s'appelle Fédération Jurassienne pour la protection de la nature.
C'est ça, oui.
Et vous travaillez en étroite collaboration avec cette fédération car il faut faire des échanges.
Échanges, excursions en
et
commun.
Et recherches.
Recherche aussi, dans le cadre des animateurs des sections. Souvent, ce sont eux-mêmes des chercheurs ou des naturalistes qui font ça de façon quasi professionnelle. Alors évidemment que tous les gens qui sont dans ces sections en profitent.
Entre la mycologie, l'ornithologie, la botanique et la géologie, quelle est la section la plus importante?
Pour l'instant, c'est manifestement la mycologie qui regroupe le plus de monde.
Décidément.
D'ailleurs,
oui,
les champignons se mangent. Et d'ailleurs, c'est à partir d'un cours d'université populaire sur les champignons que la société s'est formée. Donc au départ, les membres fondateurs sont en tout cas des intéressés de la mycologie, si pas de mycologues avertis.
Les mycologues sont nombreux. Est-ce qu'ils ne perturbent pas l'équilibre naturel des forêts?
C'est une question qu'on peut se poser, évidemment, et on se demande dans quelle mesure on ne doit pas être culpabilisé de dire aux gens que leurs champignons sont bons ou à rejeter. C'est une question qu'on se pose sérieusement. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, on tâche d'informer les gens sur leurs champignons et non pas seulement sur la comestibilité, pour essayer d'éveiller d'autres intérêts que la casserole, simplement.
Il y a aussi les formes et les couleurs.
Évidemment, ça c'est clair. Et aussi, beaucoup de gens viennent à une société de sciences naturelles par des intérêts artistiques, plastiques. Beaucoup font du dessin de nature, dessin d'oiseaux, dessin de plantes. Et je pense que là aussi, il y a matière à faire une section dans la société de sciences naturelles, une section qui regrouperait les gens qui travaillent de leurs mains.
Les artistes.
Par exemple, oui, c'est peut-être un grand mot. Mais...
Eh bien, je pense que les gens peuvent s'adresser à vous, à travers votre bulletin, vous pouvez mieux les informer. Je rappelle Joseph Chalvera, président de la Société des sciences naturelles du pays de Porrentruy, et vous pouvez nous demander son adresse pour que le bulletin d'information puisse vous parvenir.
Merci.
Monsieur Boulanger, nous avons offert ce matin des fleurs de mousse pour que vous puissiez mieux accueillir François Guedat, qui est le professeur de sciences naturelles au lycée cantonal de Porrentruy, que nous avons déjà reçu, mais aujourd'hui c'est pour une autre raison qu'il est là.
Il est en même temps le conservateur du jardin botanique, et je peux dire, Vera, et je peux bien vous le dire, monsieur François Guedat, vous le savez, c'est que j'ai des souvenirs qui sont très, très tendres du jardin botanique, et je ne dois pas être seule, puisque au moment de mon adolescence, il y avait une grotte dans ce jardin botanique. Qu'est-ce que vous en avez fait de la grotte aux amoureux ?
Elle s'est effondrée, j'allais dire de vieillesse ou de tendresse, je ne sais pas. Enfin, elle était, on a refait le jardin botanique, et cette grotte... Qui a tellement de souvenirs, a commencé de geler, on a dû l'enlever.
Oui. On s'est trop appuyé contre elle.
Peut-être. On l'a trop caressée également.
L'historique du jardin botanique, comment est-ce qu'il est né à Porrentruy ?
C'est toute une histoire extrêmement, extrêmement séduisante et charmante. Lors de l'école centrale en 1795, on saute les siècles, l'abbé Lehmann, qui enseignait les sciences naturelles à l'époque, a eu l'idée de créer un jardin botanique sur le jardin potager de l'église ou du monastère des Jésuites de l'époque. Et il s'est inspiré du jardin des plantes de Paris, qui lui a été établi par M. de Jussieu, connu des botanistes. Et il a réalisé, en collaboration avec ses collègues parisiens, un jardin botanique à Porrentruy. Ça n'a pas été sans mal. D'ailleurs, les échanges de plantes ont nécessité 3 ans. Et après 3 ans, le jardin a présenté une disposition du style du jardin des plantes de Paris. Et pour défendre ce jardin, qui était finalement destiné au public, il avait dans sa salle de classe un fusil de chasse. Il menaçait les élèves de leur tirer dessus s'ils piétinaient les plates-bandes. Alors ça, c'est extrêmement curieux. Mais du point de vue...
Ça, c'est allégé de mon temps. Nous, on payait des amendes.
Notez que, sur le plan helvétique, à l'époque, le Jura n'était pas helvétique. Il faisait partie du département du Mont-Terrible. Mais si l'on tient compte des anciens jardins botaniques, il faut reconnaître que le premier jardin botanique, à ma connaissance, fut celui de Bâle, qui a été créé au XVIe. Puis au XVIIe, c'était l'extase, enfin, Bâle, avec son institut botanique. En parallèle avec l'Institut de botanique, Institut Saint-Germain, l'école de botanique de Berne. Et ce qui n'est pas pour nous déplaire, c'est que le très grand jardin botanique roman de Genève, lui, n'a été créé qu'en 1817. C'est un peu notre point d'honneur.
Et c'est peut-être grâce à ce jardin botanique que vous avez pu constituer toutes ces merveilleuses collections scientifiques dont vous nous avez parlé hier, et qui ont suscité d'ailleurs un appel téléphonique assez étonnant.
Ah, c'est très étonnant. Hier soir, j'ai reçu un coup de téléphone d'une dame de Lausanne qui m'a dit avoir fait ses études à Porrentruy et n'avoir jamais vu ses collections. Alors j'étais surpris parce que ses collections étaient quelque part déjà à l'époque. Et elle m'a dit être une des descendantes du fameux pharmacien Seppi qui a naturalisé les caisses ramenées d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale par un de ses ancêtres. Alors, l'espoir renaît de retrouver les paramètres de cette collection.
Alors voilà, Vera, c'est une preuve que non seulement on nous écoute, mais en même temps qu'on fait des découvertes en nous écoutant.
Et c'est ça, au fond, les sciences naturelles, c'est des découvertes constantes, une recherche qui parfois n'aboutit pas tout de suite, mais qu'il faut poursuivre avec patience, avec constance surtout, parce que c'est à travers cette persévérance qu'on aboutit à des résultats aussi concrets que ceux que vous poursuivez, François Guedat. Mais
l'état actuel du jardin botanique,
oui, ce qu'on y voit, l'importance vraiment de tout ce qu'on y voit.
Vous savez, après Lehmann, je m'excuse de revenir peut-être sur ce point historique, le jardin a été délaissé et il faut revenir à Thurmann, toujours le même, voyez-vous, qui au début du 19e a réactualisé complètement ce jardin, l'a transformé plusieurs fois. Et vers les années 1952, on avait un jardin botanique qui ressemblait toujours encore à celui de Thurmann. Plus tard, il a reçu des transformations, des arbres ont été abattus, on a tout éclairci. Et dernièrement, on a refait complètement une des parties du jardin qu'on appelle le jardin jurassien, qui en son temps était l'alpinetum. Alors dans le Jura, je pense qu'il est indispensable d'avoir la flore jurassienne par excellence, et c'est pour cette raison que nous l'avons transformé en jardin dit jurassien. Il n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs parties, plusieurs secteurs de jardin. Le système, qui est toujours le système de Jussieu. Puis le parc, avec quelques essences importantes. C'est la zone de délassement. Le jardin dit jurassien, nous avons quelque chose comme 800 à 900 plantes endémiques, enfin endémiques, non c'est faux, 800 plantes courantes de nos régions, y compris la flore protégée qui porte une étiquette spéciale, et les serres où nous présentons quelques espèces tropicales. Et entre autres, nous sommes pas peu fiers de détenir une très belle collection de cactus. Grâce à un don, d'ailleurs.
Collection qui est célèbre et qui vous a permis de faire quelques échanges.
Elle était célèbre et un visiteur, en 1979, le docteur Locuti, qui était un chimiste notoire à Thun, passionné de cactus. D'ailleurs, sa passion est née d'une offre de cactus qu'il a faite à sa femme lors d'un anniversaire de mariage. Je crois. Et ça a déclenché sa passion. Et de fil en aiguille, de 100 à 200 cactus, à 300 cactus, à différentes analyses de terre. Il a trouvé la terre optimale pour cultiver ses cactus. Il a eu une collection absolument remarquable. Dans cette collection, il trouve des espèces rarissimes, voire uniques. Et lorsque M. Locuti a pris sa retraite, il est revenu dans le pays jurassien. Il ne savait pas que faire de cette collection. Et très gentiment, il nous l'a offerte, ou en tout cas une bonne partie de cette collection. Et on n'est pas peu fiers de la détenir chez nous. À telle enseigne que le grand jardin botanique, qui est, à mon avis, le plus spécialisé dans le domaine des plantes grasses et des cactus, qui est le jardin botanique de Zurich, dont nous avons profité pour la détermination des espèces douteuses, nous a même demandé des échantillons qu'il ne détenait pas. Et le jardin botanique de Zurich est peut-être le plus important du monde dans ce domaine. Alors on a notre point d'honneur, on a maintenant des cactus qui ont envie ou qui font l'envie de certaines personnes.
Et vous avez également créé des iris, une collection d'iris.
Alors la collection d'iris est intervenue ou a été plantée il y a une dizaine d'années dans un but de touristique, j'allais dire. Quand nous avons le système de Jussieu, nous avons les plantes présentées systématiquement. On ne veut pas faire un cours de botanique, mais enfin ça va des apétales au diallipétales jusqu'au composé. Et c'est peut-être un peu rébarbatif. Et on a émis l'idée de mettre une collection d'iris. Et nous en avons aujourd'hui quelque chose, je crois à peu près 180 variétés différentes qui fleurissent au mois de juin. Et ça permet un défilé monstre du public. Car ça vaut le coup d'œil. Succède à cela les roses et plus tard, je l'espère, dans un proche avenir, des dahlias et des tulipes au printemps.
Il a donc un rôle important joué par ce jardin botanique auprès de la population.
Je crois que son rôle est évident. D'une part, il est informatif, il permet aux élèves de la région de Porrentruy et même les élèves d'ailleurs de venir voir les plantes qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont pourtant des plantes qu'on trouve dans nos forêts. C'est de faire des excursions botaniques à bon marché, il suffit de se déplacer au jardin. Ça permet de montrer aussi quelques aspects horticoles de la région. Ça permet de présenter quelques nouvelles variétés de roses qui ont reçu le Grand Prix, la médaille d'or à Genève ou à Paris ou à Madrid.
Variétés qui ont été créées dans le jardin botanique de Porrentruy.
Non, pas du tout. Alors, nous n'avons vraiment pas le temps de le faire. Et je crois que c'est aussi un but touristique et je crois que c'est réussi quand on voit le nombre de cars, surtout des cars étrangers, malheureusement. Hein. Quand je dis malheureusement, c'est...
Mais c'est toujours comme ça, François Guénard. On ne connaît jamais les richesses chez soi. On va voir celle des autres.
On va voir celle des autres. Je crois que notre jardin commence d'être connu un peu loin à la ronde, même d'Australie, où certaines personnes de la Société Royale de Melbourne sont venues visiter le jardin parce qu'ils ont entendu parler du livre, je ne sais pas dans quelle gazette anglaise, par exemple.
Mais je crois qu'une des grandes utilités de ce jardin, c'est cet échange que vous pratiquez avec tous les pays, les échanges de graines.
Alors c'est une tradition botanique, du jardin botanique, de récolter en principe toutes les graines des plantes qui ont fleuri durant l'année et de les trier, de les nettoyer, de les mettre en sachet, d'en établir un catalogue et de l'envoyer dans les jardins botaniques du monde entier. Et nous sommes, comme tous les jardins botaniques d'ailleurs, sont en relation avec les autres jardins botaniques. On est en relation avec les jardins botaniques de tous les continents. Et nous envoyons ce catalogue et nous recevons effectivement des commandes de tous ces jardins botaniques qui nous font le plaisir de mettre dans leur jardin botanique la flore jurassienne, par exemple.
Vous avez déjà essayé d'acclimater des fleurs particulières dans ce jardin botanique ?
On essaye d'acclimater tout ce qu'on peut, enfin, en fonction de la place que nous avons à disposition, mais nous avons pas mal d'espèces intéressantes. Je crois que nous détenons une belle collection de conifères, de cycadinées, entre autres, qui sont des plantes intermédiaires entre les vieilles fougères et les conifères actuels. Notre collection est remarquable.
Vous avez des désirs ?
Mon Dieu, les désirs, il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est une question de finances, c'est de refaire le parc à l'extérieur du jardin, c'est-à-dire dans la partie supérieure du jardin botanique, de refaire les chemins qui ont vieilli, de refaire une pergola permettant peut-être la visite des amoureux, des amoureux en remplacement de la grotte, pourquoi pas. Ça donne un certain chic à l'affaire.
Ah, et puis c'est indispensable si vous voulez que la ville de Porrentruy soit peuplée de nouveaux citoyens.
Par exemple, je pense que dans les serres, nous pourrions changer aussi de collection, peut-être étendre la collection des orchidées, pourquoi pas avoir un étang tropical dans une serre particulière permettant d'avoir de grands nénuphars. Bref, restons quand même modestes. Nous avons un beau jardin botanique dans un petit pays qui est parcouru par des centaines et des milliers de personnes par année. Je crois qu'il faut aussi se satisfaire de ce que l'on a. Pour l'instant, je crois que c'est assez remarquable.
Il vous arrive aussi de cueillir des bananes dans ce jardin botanique.
Évidemment, c'est l'éternel problème du jardin botanique de Porrentruy. Quand tout va bien, c'est que les bananes sont mûres. C'est vrai qu'elles mûrissent et qu'elles mûrissent sur pied. Elles sont à peu près la même taille que celles qu'on achète dans le commerce, mais elles mûrissent sur pied et elles sont extraordinairement douces et bonnes. Alors il faut tomber au bon moment, il faut être ami du jardin botanique, y venir plusieurs fois et repérer l'état de maturité des bananes pour pouvoir un jour en profiter.
Vera, nous retenons le tuyau et on ne manquera pas de choisir le bon moment.
Absolument, je voudrais vite demander à Joseph Chalvera si lui connaît ce jardin botanique en tant qu'habitant de Porrentruy et surtout biologiste.
C'est évident. En tant qu'habitant de Porrentruy, je ne sais pas parce que je le connaissais déjà avant. En fait, avant d'être habitant de Porrentruy, puisque j'ai fait mes études à Porrentruy, chez M. Bouvier d'ailleurs.
On se retrouve.
Et à l'époque, le bâtiment dans lequel se tenait l'école normale était justement le bâtiment qui encadrait le fameux jardin aux iris. Par conséquent, j'y ai vécu quasiment dans le cœur, un jardin botanique, avant même d'être citoyen de Porrentruy. Par la suite, je n'ai jamais perdu les contacts ni avec M. Guenin, par conséquent, ni avec le jardin botanique, ni avec M. Bouvier, ni avec les jardiniers.
Et vous, Jean-Claude Bouvier, professeur Jean-Claude Bouvier.
Moi, je dois vous avouer que cette année, j'ai pas eu le temps de passer. Avec la grosse attraction que représente l'administration, j'ai vraiment un minimum de temps libre, et puis je profite de l'occasion pour demander à François Guenin le sabot de Vénus, dont on avait à l'époque des grands soucis, ça tient le coup, quoi.
Il tient tellement le coup qu'il se multiplie, et de 10 fleurs, on passe à 15 fleurs, à 25 fleurs, à 30, à 40 fleurs, je ne sais pas exactement, cette année, on passe les...
Alors,
les
on va 40. Réussir le même coup qu'avec la tulipe sauvage, ça deviendra
une mauvaise herbe.
Une mauvaise herbe, c'est très bien, ça démontre que l'on peut, avec de la technique, comment faut-il appeler ça, de jardinier, une bonne connaissance des conditions du sol, du climat, etc., arriver à transformer